Bon, ben, bonne année à tout le monde, hein, d'abord. Et merci d'être fidèle au séminaire, hein, pour le début de 2019. On a annoncé dans la présentation de ce séminaire également une séance le 31 janvier, une séance plus large dans le cadre de la Nuit des idées, qu'on a intitulée « Un mot pour un autre, la valeur de la traduction ». Avec 6 participants, des chercheurs, des traducteurs, des commanditaires de nouveaux projets. Donc, ça, je pense que ça va être assez intéressant, enfin, on espère, et polémique, peut-être. Oui, c'est à 17h, de 17h à 20h, dans l'Amphi Furet, donc au 105 boulevard Raspail. Vous avez déjà le programme, en fait, dans le mail du séminaire, mais on va vous envoyer une information... voilà, très vite, un peu plus ciblé là-dessus. Et aujourd'hui, donc, on est très heureux de refaire une séance qui s'intitule « Écrire en plusieurs langues ». Alors, ça fait écho à une séance qu'on a faite l'année dernière, en avril 2018, avec Annick Louis, si pour certains d'entre vous, vous étiez présents, où on avait vu avec elle comment un chercheur peut avoir une carrière dans deux champs académiques différents, et comment l'écriture en espagnol et en français, en l'occurrence, fécondait à la fois sa recherche et lui permettait aussi de tirer des conclusions très intéressantes sur ces deux espaces de savoir et les relations parfois complexes qu'ils entretiennent. Alors elle était dans le domaine de la théorie littéraire et de la littérature, donc en prise avec la langue. Aujourd'hui, donc, on déplace un peu la focale et les langues, mais je pense qu'on va un peu questionner les mêmes problématiques. Donc avec Thomas Griot, qui est historien américaniste, et donc c'est quelque part un peu naturel qu'il écrive aussi en anglais, surtout aujourd'hui où l'anglais est une langue de circulation presque indispensable de la recherche. Thomas Griot donc, est chercheur au CNRS. Il est dans un laboratoire qui est lié à l'EHESS, donc Mondes américains. Et il a publié en 2015 un ouvrage issu de sa thèse, donc Après la Grande Guerre, qui s'intéresse, on va le faire circuler ici. Comment, je vous donne le sous-titre, Comment les Amérindiens des États-Unis sont devenus patriotes, 1917-1947. Un sujet qui intéressait directement, qui s'appuie sur des archives dont la plupart se trouvent aux États-Unis, qui donc intéressait directement un public américain. Et c'est peut-être assez naturel que 3 ans plus tard est arrivée donc la traduction de cet ouvrage, The First Americans, donc chez un grand éditeur américain, donc Yale University Press. Et c'est entre autres de ce projet dont on va parler, puisque Thomas Griot a s'est auto-traduit ou a réécrit en fait en anglais son texte. Par ailleurs, Thomas Griot écrit très fréquemment et enseigne aussi en anglais, sans que ce soit complètement peut-être votre langue maternelle.
Enfin, non, c'est pas ma langue maternelle.
Voilà, on va en discuter. Et en contrepoint, donc Francisca a aussi accepté de venir nous partager son expérience. Donc Francisca Ompré, qui bien sûr est à l'origine aussi de ce séminaire, qui a fait une thèse en co-tutelle et a écrit sa thèse dans les deux langues et publié donc l'ouvrage issu de sa thèse donc sur Michel Foucault et la littérature, Visage du langage en français, Anstils der Sprache en allemand. Donc en allemand, c'est paru aux éditions Cadmos sous forme de livre. En français, c'est la thèse publiée. On va aussi faire passer les deux ouvrages. Et elle va également nous partager cette expérience, sachant que Francisca traduit un certain nombre d'ouvrages de sciences sociales dans des domaines qui ne sont pas forcément les tiens. Enfin, de cette expérience de traduction et d'écriture, on pourra aussi, ça fera un écho intéressant par rapport à cette perspective de l'auto-traduction. Hein. Annick Louis avait notamment proposé ce concept de traduction auctoriale, donc comme étant vraiment un domaine particulier, hein, la traduction faite par l'auteur lui-même. C'est d'ailleurs une traduction qui parfois est considérée comme une traduction non fidèle. Hein. Il est arrivé par exemple que le CNL refuse de subventionner des projets en estimant que la traduction n'était pas fidèle. Quand par exemple il n'est pas clair que c'est l'auteur qui s'est autotraduit. Hein. Donc il y a quelque chose d'intéressant ici. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Je vous laisse la parole et puis on revient pour discuter ensemble.
Merci Anne, merci Francesca pour l'invitation. Merci à vous de m'accueillir aujourd'hui. Donc je ne suis pas du tout un traducteur professionnel. Et c'est donc en tant que non professionnel que je vais parler. Je veux juste justement rappeler un petit peu brièvement mon itinéraire, comment j'en suis venu à faire ça. En fait, genre, je suis spécialiste de l'histoire des États-Unis, mais des Indiens plus particulièrement. Et en fait, j'ai découvert ça un peu sur le tard après l'agrégation d'histoire. Je suis parti à l'étranger pour faire une année à l'étranger, aux États-Unis. J'étais à Seattle et j'enseignais le français, en fait, pas l'anglais. J'ai pris des cours notamment en littérature. Enfin, j'avais pas une optique de spécialisation du tout. C'était simplement de profiter de tout ce qui était possible d'avoir sur un campus américain. Donc la langue était quand même quelque chose qui m'intéressait avant la spécialisation. Il se trouve que j'ai aussi bien aimé les cours d'histoire et d'anthropologie que j'ai fait et que je suis revenu en France me spécialiser pour un DEA ici à l'EHESS. Donc c'était ma première expérience avec l'anglais que j'ai appris en deuxième langue vivante au lycée. C'était pas du tout une spécialité. Mais il se trouve que j'ai bien aimé ce séjour-là. Pendant la thèse, que j'ai commencé ici aussi, fini ici aussi, je suis parti un an à l'Université de Virginie. Et là, c'était spécifiquement pour poursuivre intensivement ma formation en anglais, écrire en anglais, avec déjà l'objectif de pouvoir écrire dans cette langue en tant qu'historien plus tard. J'ai donc commencé une thèse en 2005, je l'ai soutenue en 2010. En français. Donc la thèse était en français et pendant toute la thèse, il était évident qu'il allait falloir passer à la traduction un moment. J'ai eu une expérience avec la traduction juste après la thèse en publiant un article dans une revue française, qui est une expérience un peu frustrante justement parce que j'avais donc un traducteur qui était tout à fait fidèle, mais pour moi beaucoup trop fidèle. J'ai lu mon texte en anglais. Et c'était quand même du français traduit, même si c'était absolument grammaticalement correct. La phrase française ne passait pas en anglais. Enfin, j'avais ce sentiment-là. Je l'ai fait lire à des collègues américains, des camarades, voilà. Et ça passait pas. Donc, j'avais le sentiment aussi qu'il y avait un acte de traduction culturelle par-delà la question de la traduction purement linguistique, qui était vraiment important à faire. En même temps, la nécessité d'être lisible pour des collègues en français, je pensais qu'il était logique que je publie d'abord en français. Logique aussi plus rapide, il faut bien le dire. Ça a été un premier moment donc, de réécriture du travail qui s'est fait en français et c'était logique parce que c'était à partir d'un matériau qui était en français. Si j'avais dû passer directement à la traduction et en même temps reprendre ma thèse pour la transformer dans l'optique d'un livre, je pense que ça aurait été plus compliqué. Donc même si je rationalise a posteriori les étapes que j'ai dû suivre, ça fonctionnait plutôt logiquement d'avoir d'abord un livre en français et ensuite un livre en anglais. Le livre en français, il a supposé aussi de faire quelque chose qui soit lisible pour un public pour lequel il n'y avait pas les références qui sont celles qui peuvent exister dans un public du moins universitaire américain qui s'attend à inscrire le livre dans un champ particulier qui est les études amérindiennes, American Indian Studies, qui est vraiment un champ qui... Alors, c'est pas des départements qu'on trouve dans toutes les universités américaines. Souvent, c'est lié à la présence, à la forte présence de groupes indiens dans les États dans lesquels se trouvent les universités, mais malgré tout, ça a une existence institutionnelle très claire. En France, je n'avais pas du tout cette visibilité-là, pardon. Donc le titre, la couverture, l'introduction, la manière dont je présentais le sujet était fait pour un public français. Le fait de mettre une photo du maréchal Foch avec un chef indien sur la couverture, c'était aussi dans l'idée de pouvoir accrocher aussi des références historiques et donc de rendre le travail lisible pour des gens qui ne sont pas spécialistes des Indiens ou même passionnés par les Indiens. Il y en a aussi. Donc là, il y avait déjà un effort de mise en forme pour un public particulier. Mais ça veut dire qu'après, il faut traduire ce livre-là qui a été conçu pour un public particulier, pour un lectorat américain. Une fois que le livre est paru en français, là, c'est la French Publishing Agency qui travaille avec les éditions de l'EHESS, oui. a proposé le livre à des maisons d'édition américaines. Il y en a eu deux qui ont montré un intérêt. Il y a Presse de NYU, Presse de Yale. NYU n'a jamais donné suite. Yale a demandé à ce que j'envoie un prospectus, enfin, une sorte de pitch un peu développé. Un chapitre et ensuite pour lancer le processus d'édition. J'ai commencé par traduire, donc fort de cette expérience un petit peu compliquée de traduction d'articles et aussi avec un souci d'être rapide, j'ai traduit moi-même un chapitre. C'était déjà une réécriture, c'était déjà pas une traduction littérale, et en fait c'est le parti que j'ai pris très tôt avec une conscience qu'il y a vraiment des attentes extrêmement différentes dans l'exposé, dans la manière dont on expose l'intérêt d'un, alors encore plus d'un chapitre, puisque aux États-Unis, puisque l'idéal du livre, je pense maintenant, c'est bon, d'abord qu'on l'achète, donc qu'il soit utilisable par les undergrads, donc le niveau les premières années de, enfin les années de college, quoi, ce qui fait les gens qui achètent. Si le livre fait partie des listes de livres à lire, il va être acheté. Donc ça, c'était le premier critère. Et le deuxième critère, c'est que les chapitres puissent être coupés en morceaux et donnés dans des listes de lecture plus spécialisées. Donc j'ai choisi le chapitre qui me paraissait le plus correspondre à cette demande-là. Et il y avait déjà un travail de réécriture. À l'époque, j'ai demandé de le relire à la personne qui avait été une sorte de tuteur pour moi quand j'étais allé cette deuxième année à l'étranger, en Virginie. Donc, il m'a servi déjà d'interprète culturel hein, pour m'orienter, pour me dire justement là où je devais plus m'éloigner encore de la structure du chapitre originel. Une fois que le processus a été lancé, il y a eu une évaluation du livre en français. Une évaluation par deux lecteurs, donc, c'est une voie assez étroite, c'est-à-dire des lecteurs de français aux États-Unis, donc qui ont un intérêt, même tangent avec le sujet. Je crois savoir qui était l'un des deux de ce côté, mais il y en a l'autre je ne connaissais pas. Et dans l'évaluation de l'autre, il y avait très clairement une indication de doute sur le caractère traduisible ou pas du livre, à savoir, ça lui semblait les mots trop philosophiques. Alors je comprenais, j'ai essayé d'interpréter ce que ça voulait dire, cette remarque, et je pense que c'est vraiment une question de style académique. Alors là, c'est ma non-interprétation, mais style académique européen. Un type d'exposé qui ne soit pas assez familier, qui ne repose pas assez sur le sens commun, qui paraisse trop académique, justement, il a fallu donc interpréter cette demande-là ou cette objection-là. Il se trouve que elle n'a pas été rédhibitoire et qu'on m'a dit qu'on allait faire une deuxième évaluation, cette fois basée sur la traduction. Donc là, j'étais arrivé à la conclusion que faire traduire, c'était ne pas traduire par moi, d'abord que c'était idiot parce que je pouvais le faire, ensuite que c'était cher et qu'il fallait trouver les crédits et que c'était beaucoup ça allait tout décaler, quoi, que ça allait prendre beaucoup de temps et j'avais comme beaucoup de gens qui ont travaillé longtemps sur le sujet, j'avais envie de passer à autre chose. Donc l'enjeu de la rapidité était important pour moi. Donc j'ai dit que j'allais traduire et j'ai été évalué une deuxième fois sur la traduction. Et là, ça n'est pas vraiment... Ça confirmait ce que j'avais ressenti au début, c'est-à-dire que le même évaluateur disait cette fois un jargon de sciences sociales. Autrement dit, l'histoire à l'américaine, ça ne doit pas être des sciences sociales. C'était vraiment le message qui passait. et que j'ai encore une fois interprété à la lumière de ma connaissance de ce que l'histoire aujourd'hui aux États-Unis, à savoir qu'il y a une ambition de raconter des histoires, qui est à la fois une ambition de mise à disposition, comment dire, qui se veut un moyen de mettre à disposition du grand public le travail universitaire, mais par grand public, en fait, il faut comprendre, encore une fois, étudiant, undergrad, que tout ça, c'est un ensemble de codes. La narration, ça ne veut pas dire raconter une histoire comme dans un roman, c'est vraiment des codes. Le code incontournable, c'est, en tête de chapitre, une anecdote. Une anecdote individualisée, une date, quelque chose qui soit, qui suscite un intérêt, qui puisse être une sorte de chapeau général pour l'ensemble du chapitre, qui donne, qui soit un apéritif aussi. Donc, encore une fois, je ne peux pas vous assurer que c'est absolument ça qui était attendu de moi, que voilà. Mais c'est comme ça que j'ai interprété les remarques assez. Même si elles étaient floues, elles étaient convergentes. Hein, c'est des remarques de cet évaluateur qui est c'est trop européen. C'est trop européen, c'est écrit pour. Voilà, c'est pas écrit pour nous. En fait, le message c'était si vous voulez être publié par nous, il faut écrire pour nous. Donc, ça a quand même confirmé l'idée qu'une traduction littérale ne passerait pas. Il se trouve en plus qu'entre 2010 et 2014, la publication en français, 2018, j'avais eu des choses que j'avais envie de corriger, quoi, tout simplement. Et que je ne voulais pas négocier ça. Je voulais négocier ça avec moi-même. Il y a des chapitres que j'ai repensés différemment. Ça a été. La traduction, pour moi, c'était aussi l'occasion de faire un livre amélioré, quand même. C'était à la fois une traduction culturelle, en partie subie. C'est-à-dire qu'il y avait une demande forte de me conformer à des standards, à des attentes qui étaient celles à la fois de mes collègues américains, mais du grand public. Et par quoi j'entends, franchement, je pense que ça veut dire essentiellement les étudiants. C'est pas un livre populaire qui va se vendre même dans un public cultivé, entre guillemets. Je pense que c'est quand même trop spécialisé. Mais il a fallu faire des efforts dans ce sens-là. Donc, par exemple, la traduction du titre, j'avais mis après la Grande Guerre, avec l'expression la Grande Guerre, qui parle à un public français. En plus, il y a eu une énorme conjonction des astres, puisque j'ai eu quand même il y a eu le centenaire qui est tombé là. Donc, ça, c'était aussi une façon d'être un peu plus visible. Mais The Great War, même si c'était l'expression de l'époque, ça ne veut rien dire pour un public aujourd'hui. D'abord, c'est pas du tout la Première Guerre mondiale n'est pas une guerre de référence aux États-Unis du tout, du tout, du tout, du tout. C'est une guerre complètement oubliée. Ce n'est pas autour de ça qu'il était intéressant de faire un titre. J'ai repris une expression à laquelle je consacrais des développements à l'intérieur du texte, l'expression de First Americans, qui disait l'approche particulière qu'ont eu les Amérindiens du patriotisme, à savoir nous sommes patriotes parce que c'était nous qui étions là les premiers. Donc c'est une expression qui était beaucoup utilisée après la Première Guerre mondiale, et la mettre en avant, c'était important. Et j'ai choisi aussi une autre photo. Alors on m'avait demandé de choisir quelque chose de plus classique autour du soldat, des couleurs bleu, blanc, rouge, américaines, etc. On m'a laissé quand même choisir une photo en noir et blanc. Mais bon, il y avait donc cet effort de traduction qui était subi. Et il y a aussi eu un effort de. Il y a la possibilité pour moi, et encore une fois, je suis très content de l'avoir eu, de reprendre certains arguments fondamentalement. Donc, ce n'est pas une expérience théorisée. C'est une expérience intuitée. Au mieux, dans certains moments, et des fois avec des phrases un peu cryptiques de la part des évaluateurs. Il se trouve qu'eux, ils ont validé après la traduction. Donc je pense que ça a marché, mais vous dire ce qui a marché exactement et pourquoi, je n'en jurerai pas. C'est vraiment le sentiment que j'ai basé sur mes lectures, sur les conversations avec les collègues, de la nécessité de tenir compte de ces attentes très fortes, de ces contraintes très fortes qui s'imposent aujourd'hui au que s'imposent aujourd'hui les historiens. C'est difficile de savoir qui impose quoi à qui aux États-Unis. Donc voilà, je ne sais pas si je peux développer plus de points. Là, je vais prendre des questions. Et puis,
On peut déjà prendre quelques questions sur ce point. Moi, j'en ai une. Ouais. Les discussions que vous avez eues, c'était avec... Est-ce que vous avez eu des discussions avec les éditeurs de Yale ou pas du tout? C'était juste vraiment suite à l'observation des deux référis que vous avez décidé de faire comme si...
En fait, le processus a été le même pour l'évaluation d'un article, c'est-à-dire que les éditeurs se retranchent derrière l'avis c'est-à-dire qu'ils ont dû valider quand même. Ils ont malgré l'opposition initiale, enfin la semi-opposition initiale d'un des deux qui disait c'est pas traduisible, c'est trop européen, ça ne nous intéressera pas, ils sont passés outre. Donc ils ont validé quand même l'idée que c'était intéressant. Mais ils se sont retranchés derrière les avis en me demandant d'y répondre. Donc non, il n'y a pas eu vraiment d'explication. Personne n'est venu me dire, vous comprenez, vous devez faire un effort parce que notre public c'est ceci ou cela. Ça a beaucoup fonctionné par sous-entendu. Et bon, j'ai publié des articles en anglais par la suite et c'est comme ça que ça fonctionne essentiellement. Il n'y a pas d'explicitation à destination des personnes qui écrivent en anglais et dont ce n'est pas la langue natale qui va les publier. Il n'y a pas du tout d'explicitation. Elles sont souvent vagues, parlent d'un standard d'écriture, comprennent qui voudra. Donc là, moi, j'ai aussi reposé beaucoup je me suis beaucoup reposé sur les avis de mes collègues américains de passage ici à l'EHESS en demandant mais comment interpréter cette évaluation, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et des fois, c'est vraiment des histoires de cuisine interne. Il y a un moment, quelqu'un qui veut que les éditions, telle édition soit plus ceci, plus cela. Il faut. Je dois dire que c'est assez. On est assez à l'aveugle un petit peu, je trouve, pour interpréter ce genre de choses.
Et concernant la réception du livre aux États-Unis, donc ça fait pas très longtemps qu'il est sorti.
Oui, j'ai pas de.
Est-ce que Yale a organisé quelque chose de spécifique pour la sortie? Est-ce qu'il a été présenté comme l'œuvre justement d'un historien européen ou pas du tout?
Non, ça apparaît que en tant que dans l'herbe de présentation biographique au dos, on voit que je suis chercheur à Paris, mais c'est pas présenté comme un travail. Justement, il y avait pas ça, c'est assez clair, c'est qu'il y a pas il y a la place pour des gens qui écrivent en anglais. Dans mon expérience, encore une fois limitée, mais il y a de la place pour des gens qui écrivent en anglais. Mais pas en tant que représentant d'une autre culture universitaire, qui écrivent d'une autre façon. Non, il y a un format américain, il faut s'y conformer. C'est un format d'immigré. On est tenu de se conformer à des normes qui n'existent pas. On n'est pas représentant d'une autre école. Et en moins, encore moins, parce qu'il n'y a pas d'école amérindienne. S'il y avait une école européenne d'études amérindiennes. Il y a des gens qui écrivent, mais il n'y a pas une identité. Donc, j'aurais pas pu me présenter comme ça de toute façon. Ce n'est pas des études amérindiennes à l'européenne, et alors les gens auraient eu un intérêt pour ça. De fait, j'ai été formé à l'EHESS, mais aussi je suis passé 2 ans, ce qui est relativement important après au niveau graduate aux États-Unis. Donc, j'étais vraiment dans un statut très, très ambivalent, et il n'y avait pas un intérêt. Ah tiens, qu'est-ce qu'un Français va dire sur les Amérindiens? Non, c'était pas du tout. C'était pas un statut d'invité. C'est pour ça que je dis immigré, c'est parce que c'est vraiment c'est un code différent.
Bon, en même temps, votre livre a été publié chez un éditeur prestigieux. On n'a pas cherché longtemps pour trouver un éditeur. Très vite. Donc quand même, ça prouve qu'il y a un vrai intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas formulé en fait comme étant en fait, une autre peut-être école d'écriture, bien qu'on l'ait pointé comme un problème pour les lecteurs américains, ça n'a pas été relevé comme quelque chose pouvant apporter des nouvelles ouvertures scientifiques.
Non, c'est ça. C'était pas vu comme de manière positive. Et encore une fois, tout ça se fait plutôt au détour d'une phrase. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre, interpréter. Est-ce que j'ai surinterprété? Est-ce que je voulais tellement être publié que j'ai surinterprété ce qu'on me disait? Je ne crois pas, parce que encore une fois. Dans d'autres expériences de publication, pour des revues cette fois, il y avait la même contrainte, c'est-à-dire on n'est pas appelé à parler en tant que représentant d'une autre tradition qui serait aussi légitime, mais il y a un format, et il faut tout le monde se plie au format, et ça fait partie de l'évaluation, la capacité à se conformer au format. Et le format, c'est un format d'exposition très, très particulier, ça on le ressent vraiment de manière très très forte. Même si tous les éléments sont là, s'ils ne sont pas là dans l'ordre requis et avec le ton aussi, un certain familier, mais pas trop. Pour la langue, c'est important aussi, c'est-à-dire juste une langue trop formelle paraît étrangère, paraît européenne. Il y a toute une sensibilité à ce qui fait les spécificités nationales. Mmh. Il y a aussi des choses qui sont qu'on peut se permettre dans certaines langues et pas dans d'autres. La présence du jeu, par exemple, dans l'introduction, est relativement standard chez les historiens. Pas de la même façon que les anthropologues. Le jeu n'a pas la même place. Il n'est pas autant considéré comme un outil de compréhension du sujet. Et malgré tout, ça fait partie de ce qu'on attend de la personne publique de l'historien. De dire « je », d'expliquer pourquoi on a choisi ce sujet-là. Et souvent, expliquer pourquoi ce sujet-là vous tient à cœur. Parce qu'on est amené à le défendre, en parler en place publique, et que dans la place publique, on en parle en tant qu'individu, responsable, etc. Mmh. Ça fait partie de la manière dont on vend son sujet aussi à un public plus large, donc à la radio, dans d'autres contextes. Le fait est que pour le livre en France, quand le livre en français est paru, il y a eu un grand documentaire sur la Première Guerre mondiale qui s'est montée aux États-Unis. Et en fait, la même personne, je pense, qui m'a soutenu pour la traduction du livre, a donné mon nom au réalisateur du documentaire. En fait, j'ai été coupé au montage. Et je pensais en partie parce qu'on m'a demandé, bon, alors vous avez un héros, quelqu'un qui vous a vraiment frappé, une belle histoire à raconter. Et moi, j'ai dit, non, c'est plus compliqué que ça. Et en fait, quick. Donc, c'est une demande massive, cette histoire d'histoire. Le pouvoir de raconter une anecdote, de faire tout tourner autour d'une anecdote qui résume, qui soit un petit soundbite, qui soit un petit morceau, voilà, qu'on va pouvoir... un nom de personne. Et ça, je le savais qu'on allait me dire ça, puis j'avais pas trop envie de le faire, donc c'est juste de la mauvaise volonté de ma part, j'aurais pu le faire. Mais dans le livre, par contre, encore une fois, c'était dans les chapeaux, dans raconter l'histoire à partir d'un exemple individuel. Il se trouve que c'était basé sur une prosopographie, que j'avais fait beaucoup de vignettes biographiques, que j'avais le matériau pour ça. Ce n'était pas un matériau héroïque que j'avais envie de tirer vers l'héroïsme, et donc ça a été coupé un petit peu. Je n'avais pas de grand récit de charge héroïque à travers la Champagne, parce que c'était en 1918. C'était ça, il me semblait, le point important.
Et juste un point que vous n'avez pas mentionné, donc vous avez quand même travaillé avec une relectrice.
Je voulais absolument en parler, j'ai complètement oublié. Donc, alors, le processus de traduction lui-même, en fait, ça a été assez rapide, vraiment, pour moi. J'ai mis 2 mois, en fait, pour traduire. Le bouquin n'est pas très grand non plus, hein, il fait 250 pages. Mais cette possibilité de traduire sans traduire, ou plutôt de traduire avec une sorte de partition, et puis je réimprovise après par-dessus, c'était une grande liberté de traduction aussi. Donc, c'est ça aussi qui explique la rapidité. Mais je voulais avoir un filet, et c'est un filet... pour l'évaluation. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on puisse dire « Ah, ça sent encore un peu le traduit, il y a des fautes en anglais et que ça rend plus compliqué l'évaluation. » Et donc, j'avais une collègue, Cécile Vidal, à Mondes Américains, qui avait déjà eu cette expérience-là, qui m'a conseillé, qui m'a recommandé une traductrice qui s'appelle Elisabeth Relais-Jolivet et qui travaille là-dedans. C'est le métier de relire des textes écrits directement en anglais, mais par des chercheurs dont ce n'est pas la langue maternelle. Et là aussi, ça a été très vite. C'est-à-dire que c'était, j'imagine, les erreurs classiques qu'on peut imaginer pour quelqu'un dont ce n'est pas la langue maternelle, les prépositions, pas quelques gallicismes, des fois, des mots que je pensais connaître en anglais, que j'utilisais de manière trop lâche. Mais ouais, c'était de cet ordre-là. Et c'était déjà, en fait, du proofreading. C'était déjà une relecture de détails pointillistes. Donc, moi, la traduction, la relecture par une professionnelle, c'était vraiment ça. C'était le filet pour éviter que l'attention des évaluateurs ne soit détournée, ne soit parasitée par ces détails-là. Je lui avais demandé aussi si elle pouvait faire en même temps du coup un travail de relecture scientifique, mais ce n'était pas possible. C'est-à-dire quand même que comme je me retraduisais moi-même, en fait, il n'y avait pas eu véritablement d'évaluation des chapitres écrits par personne. Donc je voulais lui demander ça, mais effectivement, je pense que c'était pas possible. C'était deux types de travail différents. Donc elle n'a pas fait ça. Donc effectivement, elle est mentionnée, bien sûr, dans...
Il n'y a pas eu de problème conceptuel, enfin vraiment des choses où vous avez... Parce que comme vous avez cette expérience un peu négative hein, sur les traductions...
Mais en fait, la particularité que j'ai aussi, c'est que mes sources sont en anglais. Donc tout un tas de problèmes, au contraire, disparaissaient pour moi. Ce qui avait été dur à traduire à certains moments vers le français, ou ce qui était juste lourd, ou je n'avais pas trouvé de bons équivalents, ou aussi ce dont je me suis aperçu, c'est quand même comme c'est un champ pas très développé, il n'y a pas de traduction standard. On ne sait pas, il y a certains termes que je regardais donc, dans la littérature existante, et ils pouvaient être traduits de façon différente. Allotment, un lot de terre, un lopin de terre. Mais allotment, c'est vraiment spécifique dans le contexte américain, c'est vraiment dans le cadre de la politique indienne, on attribue voilà, un lot, un lopin. Bon, en anglais, c'était allotment, il n'y avait aucun problème, et puis... Là, pour le coup, je n'avais pas besoin de l'expliquer. Donc, tout le travail qu'il y avait dans l'introduction aussi, de rendre accessible au public français la politique amérindienne des États-Unis, le statut colonial des Indiens aux États-Unis, il s'est fait différemment. Les étudiants de premier cycle américains ne sont pas forcément plus spécialistes de la question, donc il fallait quand même l'expliquer, mais pas de la même façon. Donc là aussi, toute l'introduction, c'était un travail important de représenter les choses de les réexpliquer, remettre à jour aussi. Il y a parfois des petits livres qu'il faut mentionner qui sont parus entre la publication de mon livre et la traduction. Oui, donc le travail de relecture était très important pour ça aussi. Parce qu'on demande un produit fini, en fait. Et l'ultime travail sur la langue, ça a été effectivement... encore un autre regard donc fait par l'éditeur de la maison, enfin le relecteur de la maison. C'était beaucoup des virgules et des interrogations parfois sur la répétition de nom. Qui est ce « il » Enfin, vous voyez, du travail classique, mais qui ne portait plus vraiment sur la langue, ou épisodiquement sur la langue. Vraiment. Donc, ce travail-là, il avait été évacué avant, et je pense que c'est ce qu'on me demandait aussi de faire, d'arriver avec un produit fini, le plus fini possible. Il n'y a pas vraiment eu de travail d'édition sur la langue, avec la maison d'édition.
Oui. Les standards dont vous avez parlé tout à l'heure, là, les standards d'écriture qui sont sous-entendus, semblent plutôt dans le domaine de l'histoire.
Beaucoup.
Moins dans les sciences sociales.
Beaucoup, il me semble que cette remarque, ce mot de jargon qu'on m'a un peu lancé à la figure, c'était vraiment le signe qu'il y a des barrières disciplinaires et qu'il fallait les respecter, en tout cas pour cette personne. Mais bon, cette personne avait un pouvoir de barrage, donc il fallait bien que je l'écoute à ce moment-là. Je crois que c'est disciplinaire. Il y a eu, depuis une vingtaine d'années, vraiment une affirmation très forte aux États-Unis dans le champ des historiens américains sur les États-Unis de la nécessité d'une histoire narrative.
Ouais.
On raconte, et donc il y a plein de livres qui sont des livres autour de cas, donc et pas de la manière d'une manière un peu, je pense qu'il paraîtrait sous-théorisé justement par rapport à la micro-histoire italienne, par rapport à des tentatives justement de. Européenne, de prendre au sérieux l'idée de faire l'histoire à partir des individus, à partir de cas, y compris exceptionnels. Là, c'est vraiment une optique de lisibilité, une optique de presque, j'ai envie de dire, anti-intellectuelle par certains aspects, c'est-à-dire qu'on doit faire une histoire qui ne soit pas une histoire pour les collègues. Et un des signes de ça, mais qui est devenu un topos, parce qu'on le retrouve en fait dans tous les livres, c'est cette entrée par le cas, l'anecdote. L'anecdote, à tel endroit, il est arrivé tel truc, tel jour, machin. Et parfois, c'est surraconté, dire la température, il faisait beau, machin, X sortait de chez... La marquise sortit à 5 heures, quoi. C'est aussi ça, beaucoup. C'est vraiment c'est une façon de reprendre des codes de l'exposé réaliste, du roman réaliste. Adapté, parce qu'on considère que ça fait partie du patrimoine commun des lecteurs et que c'est une attente et que c'est une façon de faire entrer, de capter la bienveillance du lecteur aussi, de lui montrer la matérialité, l'aspect de c'est vraiment arrivé. Je pense que c'est une technique pédagogique aussi. On peut dire ça de manière positive. Parce que là, je suis excessivement critique par rapport à ça, mais voilà, c'est une technique pédagogique qui a fait ses preuves, et donc on retrouve, y compris dans tous les articles commencent comme ça. Encore une fois, en histoire des États-Unis. Ce n'est pas tous les historiens américains qui font ça du tout, mais c'est très dominant en histoire des États-Unis.
Merci. Est-ce que vous voulez tout de suite intervenir avant de passer la parole à Francisca? Oui, je crois qu'il y a des réactions. Ça tient un tout petit peu plus fort pour qu'on entende. Peut-être juste parce que Thomas Griot, vous ne te connaît pas, donc Lucie Garnier qui est traductrice. Voilà.
Moi. Mais alors, je ne sais pas, je me lance comme ça dans les recommandations. Alors, je n'ai pas du tout en position de le faire, mais je pensais en vous écoutant que, justement, est-ce qu'un travail préalable, justement, côte à côte avec les auteurs, en identifiant des passages que vous pourriez, avec fort de votre expertise, justement, du fait qu'il y a une traduction culturelle à réaliser, est-ce qu'un travail préalable avec les auteurs pour dire, là, si j'étais vous, je réécrirais ça, moi, je veux bien le traduire, mais ça ne passera pas. Est-ce que ça, ce ne serait pas quelque chose que vous pourriez proposer un peu systématiquement? Parce qu'il me semble que c'est, que ça doit arriver. Alors, effectivement, je pense qu'il y a un côté exacerbé au côté américain, mais ça doit arriver dans d'autres langues, j'imagine. Et en fait, vous êtes vraiment en position de... Enfin, je pense que vous êtes audible si vous dites ça à des auteurs, mais qui doivent eux-mêmes savoir qu'il y a ces problèmes qui se posent. Voilà, fin de la recommandation. Parfois, on me demandait aussi juste. Je dis ça basé sur la traduction du chapitre, du premier chapitre que j'ai fait relire à ce collègue. Paragraphe moins long, première phase qui est vraiment un exposé de l'idée du paragraphe. Enfin, vous voyez, il y a des standards. Moi, je les connaissais et je pensais qu'on pouvait en jouer de manière plus souple. Mais en fait, non, on me disait non, un paragraphe, une idée annoncée, machin. Donc, voilà, ça c'est. Mais bon, juste couper. Aller à la ligne. Même ce genre d'arrangement-là qui paraissent cosmétiques, je pense que ça peut jouer un rôle important et pas forcément ça ne demande pas forcément une intervention forte de l'auteur.
Il y a moyen.
Tout à fait.
De confiance.
Mutuelle. Vous aviez une question ou une remarque?
J'aurais une question.
Continental, ça peut être une équivalent hein, de...
Non, je ne cherche pas l'équivalent. Je dis, si le livre était traduit en anglais, ce serait
une autre. Ah, j'en ai aucun doute là-dessus, oui, je pense. Et sauf que je ne connais pas le milieu académique en britannique, donc je ne peux pas pointer spécifiquement ce qui changerait. D'autre part, je pense que il y a quand même là une... distance qui doit être moindre. Des gens qui s'intéressent, les anglophones qui s'intéressent aux études américaines n'ont aucun problème à se fondre dans le, je pense, dans le modèle où voir il y a une fusion. Enfin, il y a pas de. Je suis sûr que les différences sont moins importantes, mais je pense qu'il y aurait des demandes des éditeurs qui seraient différentes. Oui, c'est probable. Je ne sais pas jusqu'à quel point, encore une fois. Plus parce que je lis essentiellement des collègues américains anglophones des États-Unis. J'ai fait celui en français, pas celui en anglais. Hein? J'ai fait celui en français, pas celui en anglais. Il a été refait. C'est pas moi qui l'ai fait. Non. J'ai eu la main dans le sens, j'ai regardé, j'ai proposé. Des fois, ça reprenait des expressions littérales qui n'avaient rien à faire dans un index. J'ai signalé, mais c'est à peu près ma seule intervention. C'est parce que c'était une expression que j'avais inventée, c'était pas que, ça marchait pas dans un sub, voilà, c'est que le seul exemple qui me revient en tête comme ça, mais c'était mes interventions étaient minimales pour l'index en anglais.
Bon, on passe à la traduction inter-européenne avec Francisca.
Mais c'est un peu étonnant, je trouve que déjà entre la France et l'Allemagne, il y a des et des manières d'écriture très différentes. Non, oui, probablement on peut parler du style européen, mais je suis en train de penser parce que pour moi la chose était beaucoup plus chaotique quelque part. C'était pas du tout un processus réfléchi, anticipé et dirigé. Et je trouve ça très intéressant et votre dialogue là parce que ça rejoint le centre finalement de la question de ce séminaire en quoi. Sur plusieurs niveaux, en quoi la traduction et la recherche peuvent ont des choses à se dire au niveau épistémologique, mais aussi au niveau très concret, qui serait donc la question de la place de la traduction en sciences humaines, qui ici, quand même, se présente comme quelque chose qui serait plus de l'ordre de la réécriture, d'une prise de conscience de code, justement, qui est intéressant, qui transforme notre notion de la traduction comme un là, peut-être, d'habitude. Et qui pourrait donc être toute une exigence ou une tâche ou un défi pour un laboratoire éventuellement qui justement vous n'avez pas eu la chance ou peut-être que c'était aussi une chance, je ne sais pas, d'avoir une école pour votre domaine d'études, mais bon, les centres de recherche qui savent où se situer, quelles sont les traditions et quelles sont les traditions des autres pays pourraient éventuellement mettre en place ce type d'accompagnement d'écriture. Je trouvais ça très intéressant. Pour moi, c'était très différent. Et moi, je n'ai pas non plus... C'est-à-dire, j'ai aussi deux livres, mais ils sont différents parce que ce livre-là, mon livre allemand, est un livre édité chez un éditeur que j'ai cherché, tandis que celui-ci, le texte français, est juste la thèse brute diffusée par l'Atelier national de rédaction de thèse, je ne sais pas très bien. Reproduction des thèses, oui. Hmm? Si. Oui, il faut juste envoyer sa thèse, et c'est gratuit d'ailleurs. Je ne me souviens pas si on est obligé de prendre certains exemplaires, mais c'est un peu normal qu'on prenne des exemplaires. Peut-être aussi qu'il faut pas, il faut peut-être avoir quand même les félicitations, je ne suis pas sûre. Chez moi, c'est passé. J'ai juste écrit. Ils font même la pub. Ils demandent est-ce que vous voulez être diffusé. Et après, à la fin, on reçoit donc ce livre et tout un tas de petits microfiches. Désolée. En tout cas, c'est un service formidable. Je trouve ça magnifique. La seule exigence, c'est qu'on ne peut pas apporter des corrections à son texte. C'est vraiment la thèse brute. Vous allez voir déjà dans le sommaire, il y a des horreurs de copies très accablantes, mais on ne peut donc pas changer. Mais c'est quand même utile pour des candidatures, des choses comme ça. On peut envoyer le livre, on n'a pas besoin d'envoyer le gros machin. Mais donc c'est différent, parce que c'est quand même juste la thèse, et ce n'est pas cette réflexion autour de déjà être publié par l'UHSS pour après aller chercher un autre éditeur très prestigieux dans votre cas. En Allemagne, on a obligation de publier sa thèse. Aussi pour vous dire, mes motivations étaient différentes. Je ne suis pas sûre si j'aurais poussé mon désir de publication aussi loin d'aller chercher vraiment un éditeur. En Allemagne, si vous voulez avoir votre titre, il faut publier la thèse. C'est un petit marché, il faut payer aussi pour publier sa thèse. Donc c'est très différent qu'en France. Un peu plus anglo-saxon, mais quand même un peu moins cher. Et donc, j'ai repris et retravaillé ma thèse dans la langue allemande. C'est un livre remanié, retravaillé et changé. Et le texte français est resté le même. Mais pour moi, donc, la rédaction ou le moment de la traduction était pendant le processus de rédaction de thèse même, intégré, si on veut dire, et pas un pur accident. Au fond, c'est assez idiot, pour le dire ainsi. Parce que j'ai fait donc une co-tutelle de thèse, et pour tous ceux qui peut-être font encore des thèses ou veulent faire des thèses ou des co-tutelles de thèse, il faut faire attention de choisir un directeur de thèse qui maîtrise la langue, parce que sinon on a un problème. Et ma directrice de thèse française ne m'avait pas averti du fait qu'elle ne comprend pas l'allemand. Et donc vers la fin de la thèse, c'est surgi comme ça, on s'est rendu compte qu'on est ici face à un problème, et du coup la seule possibilité, en tout cas que moi j'ai vu, peut-être pas en après coup, je me dis peut-être qu'il y avait d'autres possibilités, mais la seule solution que j'ai vue était donc de faire deux versions complètes de la thèse. Et donc il y avait, puisque mon parcours s'est fait entre Munich et l'Allemagne en général et la France, c'était Paris 7 et Munich, et j'ai donné un peu des conférences, un peu surtout en Allemagne, mais aussi en France. J'avais des bribes en allemand, des bribes en français, et tout ça a donné un pot pourri un peu chaotique. Et que finalement, les derniers mois de ma thèse étaient donc l'écriture à la fois en allemand. Et donc successivement, j'ai traduit ce que j'ai écrit en allemand vers le français, ou bien à l'inverse. Il y avait des morceaux en français que j'ai traduit vers l'allemand. Et aussi, j'ai fait appel à une traductrice et me restait à la fin 60 pages que je n'avais pas le temps, tout simplement, et non, pas non plus le courage, qu'elle a traduit pour moi. Le premier chapitre est traduit vers le français, par Anne Le Goff, qui n'est pas mentionnée parce que on n'a pas l'habitude de l'écrire dans la thèse, donc elle n'est pas mentionnée dans l'exemplaire de la NRT. Mais à la différence, j'aimerais bien vous demander aussi comment c'était quand même pour vous, ce processus de traduction. Ça semble très... Je suis plein d'admiration. C'est allé à très... Je ne sais pas comment vous faites pour vous adapter si facilement. Je trouvais ça quand même un peu douloureux, c'est-à-dire compliqué quand même. Ça demande beaucoup d'énergie de le faire. Et en même temps, je n'ai pas du tout cet attachement que, par exemple, Annick Louis, je trouvais surprenant quand même sa notion de la traduction auctoriale. Et quand même, elle avait un statement très fort qui était « Jamais je voudrais que quelqu'un d'autre me traduit que moi-même. » C'était une position très forte que moi, je n'ai pas du tout. J'aime bien être traduite. Là, récemment, j'ai écrit un article que j'ai fait traduire vers l'anglais parce que je ne maîtrise justement pas suffisamment l'anglais. Et j'étais très... Bon, elle était magnifique aussi, cette femme, Anne Lee Smith-Gary. Je peux vous la recommander si vous traduisez de l'allemand vers l'anglais. Mais elle a fait un texte qui n'était plus le mien et en même temps, elle était en lien avec mon texte. Et c'était une telle surprise de redécouvrir son texte autrement. Et elle n'a pas modifié, ce n'était pas du tout ce travail d'adaptation, mais quand même, ce prisme différent qui quand même fait surgir autre chose, ce qu'on n'a même pas vu soi-même dans le texte, c'était très beau. Et j'ai ce même effet, en réalité, quand je me relis moi-même, même maintenant, je ne plus, j'ai un peu effacé ce processus d'écriture, mais relire aujourd'hui mes textes me les rend toujours... de manière très étrange, je ne les reconnais plus, je n'ai même plus de souvenir d'avoir écrit ça. Mais cet effet d'étrangeté, je pense, entre soi-même et sa propre langue, l'autre langue et le double processus, ça fait quelque chose, je pense, par rapport à son propre texte. Et moi, je me suis dit à un moment donné que c'est justement cela qui, même si c'était douloureux, dans le sens de, on ne dort pas beaucoup pendant une telle période, et, oui, c'était quand même un peu une bataille. Mais finalement, ça mobilise quelque chose qui n'était pas là avant et qui produit en soi-même, le processus en lui-même produit quelque chose qui n'était pas là, vraiment quelque chose qui se situe entre les langues, parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'expérience, qui fait qu'on dépasse ces deux textes. Je pense que tous ceux qui traduisent peuvent ressentir ce que je veux dire, et vous avez peut-être fait la même expérience, et il s'en ajoute que dans mon cas, mon travail sur Michel Foucault était justement consacré au rapport à la langue de Michel Foucault. Donc il y a un jeu en miroir peut-être, mais le point de départ était une découverte aussi dans les 10 écrits de Foucault et dans une publication de l'UHESS que j'ai traduit. Le petit livre de Michel Foucault qui s'appelle Le Beau Danger, qui est vraiment un très beau texte, et j'ai eu comme ça, c'était vraiment, tout ça a été un jeu d'accident et d'hasard, mais j'ai eu la possibilité de pouvoir le traduire, dans lequel il raconte que pour lui, son chemin d'écrivain, de penseur, c'est-à-dire un penseur qui écrit, a commencé au moment où il s'est rendu en Suède, pour en tant que lecteur de français. Il n'a pas du tout parlé le suédois et il ne l'a pas non plus appris, mais il était plongé dans cet environnement qui parlait une langue qui lui était complètement étrangère. Et c'est cette expérience d'une langue qui est étrangère et qui lui reste étrangère qui lui a donné accès à sa propre écriture, parce qu'il a compris que finalement, et c'est ça le titre d'ailleurs du livre, c'est une métaphore de Foucault, la langue a un visage, elle nous regarde. Et c'est notre manière de la regarder de retour qui crée le style. Et je trouvais ça très beau comme métaphore. Je vais peut-être même vous lire une petite citation de Foucault, qui, donc, pendant ce jour en Suède, ressentait le besoin, comme il disait, de se construire une maison faite de langue. Je vous lis, exposé à une langue qu'il n'était pas capable de comprendre ni de parler, il aurait éprouvé pour la première fois la belle étrangeté séduisante d'un langage qui avait sa, et là je cite, propre consistance, sa plasticité, son épaisseur, et qui établit ses propres lois. Le langage avait ses corridors, ses chemins de facilité, ses lignes, ses pentes, ses côtes, ses aspérités, bref, qu'il avait une physionomie et qu'il formait un paysage, où l'on pouvait se promener et découvrir au détour des mots, autour des phrases, brusquement, des points de vue qui n'apparaissaient pas auparavant. Et donc, il recense pour la première fois le plaisir possible de l'écriture, issu de ses besoins d'habiter sa langue à lui, comme étant le lieu le plus secret, mais le plus sûr de mon résidence, dans ce lieu sans lieu, que constitue le pays étranger dans lequel on se trouve. Finalement, la seule patrie réelle, le seul sol sur lequel on puisse marcher, la seule maison où l'on puisse s'arrêter et s'abriter, c'est bien le langage, c'est lui qu'on a appris depuis l'enfance. Et bon, on peut toujours dire que Foucault était un génie de la rhétorique et que tout cela est quand même réfléchi et fait allusion à Heidegger et tout ce qu'on veut. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'expérience qui s'est finalement reflété dans mon propre travail sur cet auteur. Et peut-être que je peux encore ajouter que la traduction m'a accompagnée pendant tout mon parcours sur différents registres. Et bon, le jeu d'hasard et d'accident a certainement aussi sa propre nécessité et ses lois. Je l'ai finalement cherché, ça c'est sûr. Mais bon, j'ai d'abord traduit avant de faire ma thèse, j'ai fait mes études et pendant mes études, j'ai eu l'occasion de travailler avec une maison d'édition et de faire mes premières traductions moi-même dans le domaine de la psychanalyse, de la, comment on dit, phénoménologie sociologique avec Bruce Begou. J'ai traduit plusieurs livres de Bruce Begou. J'ai eu l'occasion de traduire la correspondance, des parties de la correspondance entre Rousseau et Hume. Et tout ça a été à chaque fois des exemples. Et finalement, pendant la thèse, excusez-moi, les écrits posthumes de Louis Althusser. Et tout ça a été donc à chaque fois des accès. Là aussi, on rejoint quelque part Foucault parce que ce sont à chaque fois des jeux de masques qu'on fait, des styles tellement différents, des choses tellement différentes. D'ailleurs, des choses auxquelles je n'ai nullement accès parce que je ne connaissais pas du tout Bruce Begou avant, ni Althusser d'ailleurs. Tout ça, c'était à chaque fois des choses que j'ai fait comme ça, de manière très innocente, mais passionnée. C'est-à-dire à chaque fois des univers qui s'ouvrent à travers de ce décalage qui se fait dans la langue. Et je pense que finalement, pour moi, c'était nécessaire de vraiment construire mon parcours entre ces deux langues et entre les pratiques, c'est-à-dire aussi traduire m'a parfois empêché d'écrire mes propres textes, mais en même temps m'a permis peut-être aussi de débloquer quelque chose pour moi-même prendre un masque et de me lancer dans ce travail et de jouer avec les codes et les différentes cultures. Et je ne sais pas ce que c'est devenu, finalement. Je ne l'ai jamais relu, mais ma thèse ou mon livre. Mais j'imagine que c'est quelque chose d'hybride, quand même, finalement, et qui est un peu... C'est un livre qui n'est clairement pas suffisamment universitaire pour l'université allemande. Pour l'université allemande, c'est trop essai. Justement, c'est ce que les Allemands reprochent toujours aux Français, que de toute manière, ce n'est pas la science, c'est de l'essai. Mmh. Comme la littérature, les lettres modernes, la littérature, la critique littéraire en France... Ce qui s'appelle critique littéraire en France s'appelle littérature Wissenschaft en Allemagne. On ne peut pas le répéter assez souvent. Il y a une aspiration de scientificité. Mais je ne sais pas ce que ça pourrait être pour les Français. Je ne sais pas. C'est devenu quelque chose d'hybride. Voilà. Mais je trouve donc très inspirant ce que vous avez dit. Et peut-être que vous pourriez encore dire un mot sur... En plus, deux mois. C'est-à-dire, un truc, ça a aussi duré, c'est aussi 250 pages. Oui, ou pas, peut-être, si on calcule, c'était peut-être deux mois. Mais alors, vous non plus, vous n'avez pas beaucoup dormi.
Non, mais c'est le plaisir de... Enfin, tu parlais du rapport qu'on a avec son travail. Et justement, parce que c'est lointain et parce que c'est figé, pour moi, la seule manière de faire, c'était de le réécrire. Enfin, je veux dire qu'il n'y avait pas de... Ça aurait été un pensum atroce de relire la traduction que quelqu'un fait d'un travail dont je me sens distant. Oui, c'est pas mes mots doublement. Après, sur le travail des masques, de ce qu'on est, un Américain qui écrit sur les Indiens, la première question qu'on pose, c'est « Est-il indien ?» Donc, ça, c'est la première chose. C'est le premier positionnement, c'est ça qui explique qu'on dit « je » d'ailleurs, en général c'est un « je » qui s'excuse, hein. Je m'excuse de ne pas être indien et de parler des Indiens, bon je le fais quand même, et il y a tout un tas de... Bon. Alors moi j'étais dans une position bizarre, c'est-à-dire que je ne suis pas... Ici par exemple, personne ne me demande de m'excuser, on me dit « voilà, vous êtes spécialiste des Indiens, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui au Canada ?» Je dis oh. Pas spécialiste de tout et n'importe quoi, je peux pas. Mais bon, voilà, on ne conteste pas cette position d'autorité, même si moi, je n'ai pas envie de l'endosser. Mais aux États-Unis, c'est l'inverse. Donc, vous n'êtes pas indien, en fait, ça veut dire que vous êtes blanc. Donc, en tant que blanc, qu'est-ce que vous avez le droit de dire, etc. Donc, il y a aussi dans les formes, dans la traduction, dans ce qui est attendu, il y a ça aussi. Il y a aussi. Une certaine réserve, politesse. Je dis ça parce que je n'ai pas envie de dire politiquement correct, ce n'est pas ça. Mais il y a des formes d'adresse sur les sujets dont on parle, sur lesquels on est sommé de dire son positionnement, d'où on vient, etc. Y compris quand ça n'a rien, pas grand-chose à voir ou quand ça peut... Ça peut vous rendre suspect. Alors, par exemple, je travaille sur le patriotisme des Indiens, et donc quand vous regardez dans le grand public ce qui s'est dit pendant diverses commémorations autour du patriotisme amérindien, il est d'abord présenté comme une évidence, et on passe totalement sous le tapis le fait que ça peut être totalement pensé comme un produit du colonialisme, cette façon de se battre pour les gens qui vous ont occupé. En France, les gens posent systématiquement la question. Oh, comment c'est possible ? Et aux États-Unis, c'est immédiatement rationalisé. Donc il y a ces explications qui sont là sur le marché, on peut dire, qui sont. C'était une évidence. Les Indiens sont naturellement patriotes. Et surtout, ils défendent leur terre et pas les États-Unis. Alors moi, je regarde tout ce que je vois dans les sources, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plusieurs façons d'être patriote pour un Amérindien. Mais donc, pour moi, mon premier objectif pendant toute la thèse et après, c'était de me dire comment je vais arriver à faire passer ça sans passer pour un réactionnaire, en gros. Pour quelqu'un qui n'est pas du bon côté du manche, qui n'est pas du bon côté de la défense, de la souveraineté des Amérindiens, qui va dire quelque chose qui est quand même un peu tangent, voire carrément opposé à ce que disent des gens qui peuvent dire « je suis Amérindien » avant même de commencer à parler. Soit parce qu'ils le portent, ils l'expriment physiquement dans leur apparence physique, soit parce que leur nom le dit, soit parce qu'ils le disent eux-mêmes. En général, tout ça, c'est ensemble. Donc moi, j'avais ça, ce masque-là. Qu'est-ce que je fais de ça ? Je n'avais pas eu besoin de le faire en français. En anglais, il a fallu que je l'exprime d'une manière ou d'une autre. Donc mon usage de l'anglais, il était un usage méfiant aussi. Je ne veux pas prendre tout le cahier des charges. Et donc, ce cahier des charges qui aurait consisté à être plus déférent que nécessaire. Et pour qui et pourquoi, je ne savais pas. En fait, c'est une nécessité qui est due au marché de l'emploi aux États-Unis. Le fait d'être amérindien pour être embauché est important parce qu'il y a une politique d'affirmative action. Je n'ai pas à me mettre dans cette position-là. Est-ce que je vais jusqu'au bout ? Est-ce que j'endosse le masque jusqu'au bout ? Il me semble que pour moi, c'était contre-productif par rapport à ce que j'avais... à apporter, que je suis extérieur à ce champ, je n'ai pas besoin de faire ce genre de choses, et ça ne veut pas dire que je vais dire tout et n'importe quoi, mais je n'ai pas, encore une fois, à me couler absolument dans le moule j'ai pas à faire comme si j'étais un Américain. En fait, c'était ça. Donc, une forme de duplicité dans ce moment-là, de double conscience, c'est-à-dire que pendant toute... je savais que j'allais devoir en écrire en français, en anglais, que c'était la destinée de mon travail, que le français, c'était une langue de travail en un sens, c'est-à-dire que c'est plus direct, c'est une façon d'être lu par plein de gens et pas seulement par les collègues anglophones ou les collègues qui parlent en anglais. Mais l'idée, c'était que il fallait qu'il y ait un bouquin en anglais. S'il n'y avait pas de bouquin en anglais, il y avait un problème. J'avais pas fini, quoi. C'était la fin logique, c'était la publication en anglais. Ce n'était pas un plus, ce n'était pas juste une autre ligne sur le CV. C'était, mes collègues américains, ils ne lisent pas le français. Donc même pour lire, faire lire à des collègues qui sont intéressés par mon travail, qui ne sont pas spécialistes, j'avais rien à leur montrer. J'avais fait déjà des espèces de... Alors là, pour le coup, parce que j'ai fait du travail de terrain dans une réserve indienne, j'avais... des résumés parce qu'on me disait mais tout ça on vous le dit mais en fait ça va disparaître après, on leur enverra jamais la couleur. Je dis non, je reviendrai. Donc je l'ai fait, j'ai fait un truc de 50 pages en anglais que j'ai distribué, tout le monde s'en fichait, mais bon, j'avais fait mon devoir et c'était normal d'en arriver là. Il n'y avait pas de la traduction, je traduisais de l'anglais vers le français pendant ma thèse plein de fois dans ma façon de penser. Parce que je lis tout le temps en anglais, donc aussi Mais mon argument, ma façon de construire les objets, elle est quand même hybride dès le départ. Donc, ça allait dans plusieurs sens. Ouais, je me suis traduit dans plein de sens différents. J'espère que ça ne fait pas un gloubi-boulga à la fin, ni en français ou en anglais. Mais heureusement, comme c'est toujours un travail collectif, je me suis assuré en faisant relire. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que chaque chapitre est de toute façon relu par plusieurs personnes à chaque fois. Et qu'il y a quand même, j'ai cité la traductrice professionnelle qui m'a aidé, mais enfin, il y a plusieurs relectures dans tous les sens. Donc, ce travail de traduction, il est vraiment au long cours, en fait. C'est 2 mois, mais en fait, voilà, j'ai fait 2 ans aux États-Unis et effectivement, ça ne m'a pas coûté très cher au final, mais enfin, j'ai quand même été enseignant pendant 1 an, j'étais payé pour ça. Je suis parti aux États-Unis sur une bourse l'URSSI pendant 1 an. Donc il y a un coût aussi. Il y avait un investissement initial pour ça, quoi, pour comprendre la langue, la parler, l'écrire. C'était logique d'aller jusqu'au bout. Ça aurait été bizarre de me retenir alors que j'avais fait toutes les étapes pour ça.
Oui, en fait, c'est vraiment intéressant parce que vous avez tous les deux parlé de hybridité. En fait, vos deux sujets sont propices à la traduction et au passage entre deux champs. Là, quand même, Michel Foucault, c'est les études françaises internationalisées et Foucault ne dit pas la même chose en Allemagne et en France. Mais je voudrais peut-être, Francesca, que tu nous dises quelque chose sur ce terme de traduction culturelle que Thomas a employé. Est-ce que toi, tu le retiens pour ta propre auto-traduction? Est-ce que tu as parlé de code aussi? Est-ce que tu peux être plus précise là? Est-ce qu'il y a des transformations de l'écriture, des exemples dans ce que tu as écrit, où tu as vraiment transformé, où il y a eu des problèmes conceptuels entre les deux textes?
Et il y avait certainement ça, oui, sur ce niveau-là. Non, je dirais même que c'est parfois grâce à la traduction ou le miroir de l'autre langue que j'ai pu formuler un argument, c'est au niveau du travail des concepts. Je pense aussi que la syntaxe détermine la pensée quelque part et on ne pense pas de la même manière dans les deux langues. Ça, oui, et je peux peut-être apporter un exemple. Mais en même temps, ce travail culturel d'adaptation au code, ça ne s'applique pas de la même manière à un travail de thèse à ce stade-là, c'est-à-dire... j'avais tout simplement l'intention de finir une thèse et pas du tout, je n'avais aucune idée de parcours ou d'insertion dans un milieu universitaire ou autre chose, pas du tout, je n'étais même pas décidée, je ne savais pas du tout ce que je voulais devenir après tout ça. Et je me suis rendu compte que je suis entre les chaises, tout simplement parce que, bon, ici en France, le milieu des Foucauldiens est très circonscrit et je me suis jamais intégrée ou cherché le contact. C'était peut-être aussi une erreur, mais en tout cas, je n'étais pas là. Et en Allemagne, là, en revanche, j'avais une conscience probablement assez forte. En Allemagne, on ne connaît pas ce Foucault. Commence à le connaître, mais en Allemagne, Foucault est est peut-être presque le seul ou l'un des rares philosophes français qu'on lit vraiment, qui est accepté parce qu'on peut le lire d'une manière... comme penseur politique de la société et tout ça. Et, tandis que la déconstruction ou ce type de développement de la philosophie française sont toujours en une place compliquée en Allemagne. C'est quelque chose qui est trop étranger à la philosophie allemande. Donc, beaucoup ça passe. Et il est une star en Allemagne, on le lit beaucoup. Et c'était sûr que ce travail-là montre quelque chose qu'on n'a pas voulu voir avant. Justement une sensibilité pour le langage qu'on lui a, avec sa permission, puisqu'il a dit lui-même, finalement la littérature, ça m'a intéressé pendant un petit moment, mais après, ça n'a aucune importance pour moi. Avec cette permission-là, on s'est permis donc de l'oublier. Mais bon, au-delà de ça, c'était certainement pas le même enjeu. Et j'avais probablement inconsciemment certaines intuitions, mais pas du tout la même conscience dans l'écriture. Je voulais juste en finir. Mais par exemple, on peut commencer par le titre, Visage du langage, ou Le visage du langage, c'est une métaphore, c'est une citation finalement de Foucault, qui n'existe pas en Allemagne ou en allemand, parce que tout simplement les textes ne sont pas traduits, ou ils parlent de ça, ou ils n'ont pas été traduits. jusqu'à la publication du Boudanger, qui est d'ailleurs aussi un titre complètement différent en Allemagne, en allemand. Je l'ai appelé Das giftige Herz der Dinge. C'est aussi une citation qui est dans le livre même, mais qui n'a rien à voir. Je ne sais pas comment elle le dit en français maintenant, mais le cœur empoisonné des mots, il dit ça quelque part dans ce texte. Donc, pour faire allusion aux mots et les choses et pour faire passer, donc encore une fois, quelque chose d'inconnu vers le contexte allemand. Et donc, visage du langage n'est pas du tout... Ici, ça peut créer des résonances. En allemand, pas du tout. Donc, en allemand, ça s'appelle Antlitz der Sprache, im Antlitz der Sprache. Donc, c'est aussi le visage, mais c'est plus que le visage. C'est plutôt un contexte phénoménologique aussi, encore une fois. Antlitz, c'est toujours déjà une catégorie réfléchie et qui ouvre toute une réflexion sur la prosopopoé et certaines notions de style avec lesquelles on peut travailler. Mais donc, j'ai fait une préface pour le livre en allemand que je n'ai pas fait pour le livre français et que je n'aurais pas pu faire pour le livre en français parce que visage et antlitz ont des étymologies tellement différentes et ouvrent à des champs d'association tellement différents que finalement ça ne colle plus. Et tout ça pour préparer finalement l'introduction d'une métaphore qui était étrangère jusqu'à présent à cet univers-là théorique foucauldien dans l'espace germanophone. Ce type de choses. Et après, bon, mon travail, je viens donc de la littérature et de la philologie, c'est un travail assez philologique sur certaines phrases de Foucault que j'analyse et que je contourne. Voilà. Donc, je travaille toujours sur l'original français. Donc, les citations en allemand, dans le livre allemand, sont aussi en français, bien sûr. C'est l'une de mes convictions ici aussi, mais j'ai vu ici aussi des thèses qui m'ont surprise parce que il y a des gens ici qui travaillent sur des auteurs germanophones et qui les citent en français sans le discuter, ce qui m'a toujours très étonnée. Ça me semble absolument impossible. Donc c'est un travail sur les phrases, la syntaxe, les tournures en français qui, en les traitant, il faut les traduire bien sûr en allemand, mais tout en gardant ce noyau intraduisible, justement. Là, cette notion de l'intraduisible est quand même, de Barbara Cassin, est quand même magnifique. On peut tout objecter qu'on veut, mais il y a ce noyau d'intraduisibilité qui est productif, qui ouvre à des associations, parce que l'impossibilité de trouver une traduction directe nous oblige à associer, à inventer, à devenir créatif, à trouver des solutions, d'autres manières de contourner le problème ou de s'affronter au problème. Et c'est ce travail-là qui me plaît. C'est-à-dire, c'était certainement la découverte d'une méthodologie, même si aujourd'hui je n'ai plus rien à faire avec Foucault, ni avec Althusser d'ailleurs, avec rien de tout cela. Il m'est resté l'expérience et il m'est resté la méthodologie qui part très consciemment toujours de ce type de noyau d'introduisibilité, c'est-à-dire de la plurisémanticité des mots, d'une sensibilité pour les échos qu'un mot peut avoir dans une autre langue et de prendre ça comme point de départ pour le travail du langage dans la formation des savants en sciences humaines. Voilà, donc les petites... aujourd'hui, je fais des espèces de micro-terrains philologiques, je crois. Il y a des espèces d'études sur des auteurs là, récemment sur Walter Benjamin, où on peut trouver ce type de fonctionnement. C'est-à-dire, on voit vraiment que sous le texte allemand, il y a une couche d'une langue étrangère, en l'occurrence le français pour Walter Benjamin, qui fait apparition et qu'il faut détecter. Et si on le voit, c'est comme si la langue, parfois, devient solide. Je ne sais pas si vous avez... Parfois, on lit un texte et on se dit, mais il y a quelque chose ici, je n'arrive pas à le saisir, mais quelque chose est là. Et quand on arrive à le saisir soudainement, comme une apparition, on se rend compte qu'effectivement, il y avait quelque chose là, une autre langue qui était en dessous de celle-là. Et quand on les met ensemble et on superpose les couches et les strates, quelque chose de complètement différent s'ouvre. Et on voit que le langage est toujours là, toujours en train de travailler, même dans des... Là, par exemple, dans la notion de l'allégorie, dans des des élaborations théoriques très complexes, mais qui ne sont pas uniquement guidées par l'intellect, mais par la langue, qui devient quelque part autonome. Voilà. Bon, j'ai un peu discrété, mais c'était un peu ça.
Du coup, il y a peut-être un sujet dont on a un tout petit peu moins parlé, mais qui est dans vos deux cas assez présente, c'est les conditions de publication des traductions. Donc, ça, c'est mon côté édition qui revient, mais ce qui est intéressant, en fait, dans l'expérience avec IEL, c'est que, du point de vue de l'éditeur, le processus de traduction est complètement escamoté. C'est comme s'il n'existait pas. Il est, en fait, reporté à l'auteur. Donc, c'est quand même le principe de la langue dominante. Quand on a parlé du statut d'émigré, chercheur immigré, bon... ça c'est quand même assez spécifique aux pays anglophones. C'est aussi assez présent en France vis-à-vis de toutes les langues. Vis-à-vis de l'allemand, il y a quand même toujours cette idée que là, s'il y a une traduction, il faut qu'on soit dans la question des savoirs de la traduction est quand même existe entre l'allemand et le français, entre le français et l'allemand, oui. Mais avec d'autres langues comme l'arabe, le chinois ou d'autres, on n'a aucunement la notion que des apports de chercheurs venant de ces langues pourraient être intéressants. Alors là, avec l'anglais, donc vous avez eu aucune discussion avec les éditeurs vraiment sur cette question linguistique. Tout ça, c'était totalement évacué.
Ah oui, absolument. Et je pense qu'en fait, je parlais d'une sorte de cahier des charges, mais je pense que ça raidit énormément justement c'est ça qui m'obligeait aussi à deviner. C'est-à-dire que tout était à ma charge, en fait. D'ailleurs, même les photos.
Ah oui.
Financièrement, je veux dire, c'est quand même, moi, il y a ces nouvelles photos qui n'étaient pas dans le livre originel, donc il fallait la payer. Il y a un côté clé en main, en fait. Hein,
Donc, si on veut reparler un tout petit peu plus largement de l'édition en sciences humaines aujourd'hui aux États-Unis, si vous connaissez un petit peu, il n'y a aucun budget pour la traduction. C'est pas des choses qui rentrent, en tout cas pour les sciences humaines, pour les livres académiques, c'est pas du tout quelque chose qui rentre dans leur champ de...
Moi, on m'a donné à penser que c'était à moi de trouver les financements pour une traduction. Étant donné aussi l'insolvabilité du livre, je veux dire la solvabilité relative du livre par ailleurs, c'est-à-dire que le livre, il a été acheté systématiquement par les bibliothèques. Mmh. Et comme il y a beaucoup plus de bibliothèques universitaires ou qui ont acheté systématiquement Yale, on a dû juger que s'il n'y avait pas de coût de traduction dans la balance, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont payé que les droits de
cession.
De cession. Mmh. Oui. C'était rentable. Mmh. Je pense que c'est vraiment ça qu'il y a un calcul financier, que c'est majeur dans le type de rapport qu'on a avec l'éditeur. C'est-à-dire qu'il peut l'improduire. Hein, sinon le bouquin il est pas rentable s'ils doivent intervenir. Effectivement, il n'y a pas eu de, j'ai parlé à personne de même des principes qui devaient guider ma traduction. C'était à moi de l'anticiper, d'essayer de comprendre. Effectivement, comme j'ai dit, j'avais pensé à ça pendant un certain temps. J'en avais parlé avec des collègues qui avaient eu aussi des expériences de traduction qui parfois s'étaient éternisées suffisamment pour que la maison d'édition disparaisse. Enfin, donc j'avais des expériences malheureuses autour de moi qui me disaient il faut saisir l'occasion et aller vite. Mais tout s'est fait de manière vraiment sous-entendue. Je n'avais que que l'évaluation négative. L'évaluation positive ne me disait rien. Elle disait à l'éditeur publiez-le. Moi, elle ne me disait pas comment faire pour traduire. Donc non, j'avais l'impression qu'effectivement ces conditions financières, ces impératifs de rentabilité. Donc, on est laissé à soi-même. Et donc, c'est un travail de traduction, encore une fois, à l'aveugle. Oui, et à l'aveugle, c'est-à-dire je fais ce que je pense être la bonne stratégie. Et voilà, quand j'ai envoyé la traduction, j'ai prié pour que l'évaluateur mauvais coucheur change d'avis. Oui. Mais c'est tout.